C'était par une matinée claire et fraîche du commencement d'octobre. Les lilas et les cities, illuminés par un radieux soleil d'automne, avaient des reflets particuliers et formaient une voûte ininterrompue que la nature aimable mettait à la disposition des êtres qui habitent la région des hautes branches. Les mélèzes et les grenadiers profilaient leurs formes rouges et jaunes et jetaient une teinte de gaieté sur cet océan de verdure. Le parfum enivrant des fleurs éphémères embaumait l'atmosphère en délire. Bien haut, dans les airs, un grand oiseau solitaire planait, majestueux et presque immobile. Partout régnait le calme, la sérénité et la paix des régions éthérées. Ceci se passe en octobre 1900 à Hope Canyon, et nous sommes sur un terrain de mines argentifères dans la région d'Esmeralva. Solitaire et reculé, l'endroit est de découverte récente. Les nouveaux arrivés le croient riche en métal. Il suffira de le prospecter pendant un ou deux ans pour être fixé sur sa valeur. Comme habitant, le camp se compose d'environ 200 mineurs, d'une femme blanche avec son enfant de quelques blanchisseurs chinois, d'une douzaine d'indiens plus ou moins nomades qui portent des vêtements de peau de lapin, des chapeaux de liège et des colliers de babeloterie. Il n'y a ici ni moulin, ni église, ni journaux. Le camp n'existe que depuis 2 ans, et la nouvelle de sa fondation n'a pas fait sensation. On ignore généralement son nom et son emplacement. Des deux côtés de Hope Canyon, les montagnes se dressent à pic, formant une muraille de 3000 pieds, et la longue file des huttes qui s'échelonnent au fond de cet entonnoir ne reçoit guère qu'une fois par jour, vers midi, la caresse passagère du soleil. Le village s'étend sur environ 2000 en longueur et les cabanes sont assez espacées l'une de l'autre. L'auberge est la seule maison vraiment organisée, on peut même dire qu'elle représente la seule maison du camp. Elle occupe une position centrale et devient le soir le rendez-vous de la population. On y boit, on y joue aux cartes et aux dominos. Il existe un billard dont le tapis couturé de déchirure a été réparé avec du taffetas d'Angleterre. Il y a bien quelques queues, mais sans procédé, quelques billes fendues qui, en roulant, font un bruit de casserole fêlée et ne s'arrêtent que par soubresaut, et même un morceau de craie bréchée. Le premier qui arrive à faire 6 carambolages de suite peut boire autant qu'il veut aux frais du bar. La case de Flint Bruckner était au sud, la dernière du village. Sa concession était à l'autre extrémité, au nord, un peu au-delà de la dernière hutte dans cette direction. Il était d'un caractère cassant, peu sociable et n'avait pas d'amis. Ceux qui essayaient de frayer avec lui ne tardaient pas à le regretter et lui faussaient compagnie au bout de peu de temps. On ne savait rien de son passé. Les uns croyaient que Sammy Hillier savait quelque chose sur lui, d'autres affirmaient le contraire. Si on le questionnait à ce sujet, Sammy prétendait toujours ignorer son passé. Flint avait à ses gages un jeune Anglais de 16 ans, très timide et qu'il traitait durement, aussi bien en public que dans l'intimité. Naturellement, on s'adressait à ce jeune homme pour avoir des renseignements sur son patron, mais toujours sans succès. Fetlock Jones, c'est le nom du jeune Anglais, racontait que Flint l'avait recueilli en prospectant une autre mine, et comme lui-même n'avait en Amérique ni famille ni amis, il avait trouvé sage d'accepter les propositions de Buckner. En retour du labeur pénible qui lui était imposé, Jones recevait pour tout salaire du lard et des haricots. C'était tout ce que ce jeune homme voulait raconter sur son maître. Il y avait déjà un mois que Fetlock était rivé au service de Flint. Son apparence déjà chétive pouvait inspirer de jour en jour de sérieuses inquiétudes, car on le voyait dépérir sous l'influence des mauvais traitements que lui faisait subir son maître. Il a reconnu en effet que les caractères doux souffrent amèrement de la moindre brutalité, plus amèrement peut-être que les caractères fortement trempés qui s'emportent en paroles et se laissent même aller aux voies de fête quand leur patience est à bout et que la coupe déborde. Quelques personnes compatissantes voulaient venir en aide au malheureux Fetlock et l'engageaient à quitter Buckner. Mais le jeune homme accueillit cette idée avec un effroi mal dissimulé et répondit qu'il ne l'oserait jamais. Patrilley insistait en disant « Quittez donc ce maudit harpagon et venez avec moi. N'ayez pas peur, je me charge de lui faire entendre raison s'il proteste. » Fetlock le remercia les larmes aux yeux, mais se mit à trembler de tous ses membres en répétant qu'il n'oserait pas, parce que Flynn se vengerait s'il le retrouvait en tête-à-tête au milieu de la nuit. « Et puis, voyez-vous, s'écriait-il, la seule pensée de ce qui m'arriverait me donne la chair de poule, monsieur Rayleigh. » D'autres lui conseillaient, « sauvez-vous, nous vous aiderons et vous gagnerez la côte une belle nuit. » Mais toutes les suggestions ne pouvaient le décider. Fetlock prétendait que Flint le poursuivrait et le ramènerait pour assouvir sa vengeance. Cette idée de vengeance, personne ne la comprenait. L'état misérable du pauvre garçon suivait son cours et les semaines passaient. Il est probable que les amis de Fetlock se seraient rendus compte de la situation s'ils avaient connu l'emploi de ces moments perdus. Ils couchaient dans une hutte voisine de celle de Flint et passaient ses nuits à réfléchir et à chercher un moyen infaillible de tuer Flint sans être découvert. Ils ne vivaient plus que pour cela. Les heures pendant lesquelles il machinait son complot étaient les seuls moments de la journée auxquels il aspirait avec ardeur et qui lui donnaient l'illusion du bonheur. Il pensa au poison. Non, ça n'était pas possible. L'enquête révélerait où il l'avait pris et qui le lui avait vendu. Il eut l'idée de lui loger une balle dans le dos quand il le trouverait entre quatre yeux un soir où Flint rentrerait chez lui vers minuit, après sa promenade accoutumée. Mais quelqu'un pourrait l'entendre et le surprendre. Il songea bien à le poignarder pendant son sommeil, mais sa main pourrait trembler, son coup ne serait peut-être pas assez sûr. Flint alors s'emparerait de lui. Il imagina des centaines de procédés variés. Aucun ne lui paraissait infaillible, car les moyens les plus secrets présentaient toujours un danger, un risque, une possibilité pour lui d'être trahi. Il ne s'arrêta donc à aucun. Mais il était d'une patience sans bornes. Oh, « rien ne presse », se disait-il. Il se promettait de ne quitter Flint que lorsqu'il l'aurait réduit à l'état de cadavre. Mieux valait prendre son temps, il trouvera bien une occasion d'assouvir sa vengeance. Ce moyen existait et il le découvrirait, dût-il pour cela subir toutes les hontes et toutes les misères. Oui, il trouverait sûrement un procédé qui ne laisserait aucune trace de son crime, pas le plus petit indice. Rien ne pressait, mais quand il l'aurait trouvé, alors, quelle joie de vivre pour lui! En attendant, il était prudent de conserver religieusement intacte sa réputation de douceur, et il s'efforçait plus que jamais de ne pas laisser entendre le moindre mot de son ressentiment ou de sa colère contre son oppresseur. Deux jours avant la matinée d'octobre à laquelle nous venons de faire allusion, Flint avait acheté différents objets qu'il rapportait à sa cabane, aidé par Fetlock. Une caisse de bougies qu'ils placèrent dans un coin, une boîte de poudre explosive qu'ils logèrent au-dessus des bougies, un petit baril de poudre qu'ils déposèrent sous la couchette de Flint, et un énorme chapelet de fusées qu'ils accrochèrent à un clou. Fetlock en conclut que le travail du pic allait bientôt faire place à celui de la poudre et que Flint voulait commencer à faire sauter les blocs. Il avait déjà assisté à ce genre d'explosion, mais n'en connaissait pas la préparation. Sa supposition était exacte. Le temps de faire sauter la mine était venu. Le lendemain matin, ils portèrent au puits les fusées, les forêts et la boîte à poudre. Le trou avait à peu près 8 pieds de profondeur, et pour arriver au fond, comme pour en sortir, il fallait se servir d'une petite échelle. Ils descendirent donc. Au commandement, Fait Lock tint le forêt, sans savoir comment s'en servir, et Flynn se mit à cogner. Au premier coup de marteau, le forêt échappa des mains de Fait Lock et fut projeté de côté. « Maudit fils de nègre !» vociféra Flint. « Voilà une manière de tenir un forêt. Hé, ramasse-le et tâche de tenir ton outil. Je t'apprendrai ton métier. Attends. Maintenant, charge !» Le jeune homme commença à verser la poudre. « Idiot !» grommela Flint en lui appliquant sur la mâchoire un grand coup de crosse qui lui fit perdre l'équilibre. « Lève-toi. Tu vas pas rester par terre, je pense. Allons !» « Mais d'abord la mèche. Bon, maintenant la poudre. Assez, assez. Veux-tu remplir tout le trou, espèce de poule mouillée. Mets de la terre, du gravier, étasse le tout. Tiens, hey, grand imbécile, sors de là !» Il lui arracha l'instrument et se mit à damer la charge lui-même en jurant et blasphémant comme un forcené. Puis il alluma la mèche, sortit du puits et courut à 50 mètres de là, suivi de Fetlock. Ils attendirent quelques instants, une épaisse fumée se produisit et des quartiers de roches volèrent en l'air avec un fracas d'explosion. Une pluie de pierres retomba et tout rentra dans le calme. « Quel malheur que tu ne te sois pas trouvé là-dedans !» s'écria le patron. Ils redescendirent dans le puits, le nettoyèrent, préparèrent un nouveau trou et recommencèrent la même opération. « Regarde donc ce que tu fais, au lieu de tout gaspiller. Tu sais donc pas régler une charge ?»« Non, maître, tu ne sais pas. Moi, enfin, je n'ai jamais rien vu d'aussi bête que toi. » Il sortit du puits et cria à Fetlock qui restait en bas. « Eh ben, idiot, vas-tu rester là toute la journée? Coupe la mèche et allume-la. » Le pauvre garçon répondit tout tremblant. « Maître, je ferai comme il vous plaira. »« Comment ?» Tu oses me répondre à moi, allez, coupe, allume, te dis-je. Le jeune garçon fit ce qui lui était commandé. Sacrebleu, hurla Flynn, tu coupes une mèche aussi courte. Ah, je voudrais que tu sautes avec. Dans sa colère, il retira l'échelle et s'enfuit. Fetlock resta terrorisé. Oh, mon Dieu, au secours, je suis perdu, criait-il. Que faire, que faire? Il s'adossa au mur et s'y cramponna comme il put. Le pétillement de la poudre qui s'allumait l'empêchait d'articuler un son. Sa respiration s'arrêta. Il était sans force et inerte. Encore 2 ou 3 secondes et il volerait en l'air avec les blocs de pierre. Une inspiration subite lui vint. Il allongea le bras, saisit la mèche et coupa l'extrémité qui dépassait d'un pouce au-dessus du sol. Il était sauvé. Il tomba à moitié évanoui et mort de peur. Murmurant avec un sourire sur les lèvres, il m'a montré. Je savais bien qu'avec de la patience, j'y arriverais. 5 minutes après, Buckner se glissa furtivement au puits, l'air gêné et inquiet, et en examina le fond. Il comprit la situation et vit ce qui était arrivé. Il descendit l'échelle. Fetlock put remonter malgré son grand affaiblissement et son émotion. Il était livide. Sa mine effrayante parut impressionner Buckner, qui essaya de lui témoigner un regret et un semblant de sympathie. Mais ces 2 sentiments lui étaient trop inconnus pour qu'il sût les exprimer. « C'est un accident, lui dit-il. Non, non, on parle à personne, n'est-ce pas ?» J'étais énervé et ne savais plus très bien ce que je faisais. « Tu me parais fatigué, tu as trop travaillé aujourd'hui, allez, va à ma cabane et mange tout ce que tu voudras, ensuite repose-toi bien, n'oublie pas que cet accident est dû à mon seul énervement. »« Vous m'avez bien effrayé, lui dit Fetlock en s'en allant, mais j'ai au moins appris quelque chose, je ne le regrette pas. »« Pas difficile à contenter, murmura Buckner en l'observant du coin de l'œil. » Je me demande s'il en parlera, l'osera-t-il? Quel guigne qui n'ait pas été tué! Fetlock ne pensa pas à se reposer pendant le congé qui lui avait été accordé. Il l'employa à travailler avec ardeur et à préparer fiévreusement son plan de vengeance. Des broussailles épaisses couvraient la montagne du côté de la demeure de Flint. Fetlock s'y cacha et adopta cette retraite pour machiner son complot. Ces derniers préparatifs devaient se faire dans le bouge qui lui servait de hutte. S'il a le moindre soupçon à mon endroit, pensa-t-il, il a bien tort de croire que je raconterai ce qui s'est passé. D'ailleurs, il ne le croira pas longtemps. Bientôt, il sera fixé. Demain, je ne me repartirai pas de ma douceur et de ma timidité habituelle, qu'il croit inaltérable, mais après-demain, au milieu de la nuit, sa dernière heure aura sonné sans que personne au monde puisse soupçonner l'auteur de sa mort et la manière dont elle sera survenue. Le piquant de la chose est que lui-même m'en ait suggéré l'idée.